Dans le cadre de sa série Microcassette, Radio Nouvelle est heureuse de vous présenter une conférence sur le thème de la pensée chrétienne et du mal, présentée par le professeur Henri Blocher.
Le titre n'est pas de moi. Il fallait être, je pense, du pays de Tintin et Milou pour oser ce clin d'œil facétieux, cette parodie de la devise de l'ordre de la Jarretière sur un sujet que nous savons tous, évidemment, grave. Mais je remercie les organisateurs d'avoir eu cette audace, ce trait. Je les remercie de toute façon de m'avoir invité. C'est toujours quelque chose de très réconfortant de se faire inviter une deuxième fois. La première, on n'est jamais très sûr de correspondre à ce que les organisateurs souhaitaient. La deuxième, on a peut-être une chance supplémentaire. Encore que l'introduction que vient de prononcer mon vieil ami Claude Villain me fait un peu peur. J'ai bien peur de ne pas correspondre tout à fait à ce qu'il attend de cette soirée, mais vous pourrez toujours redresser ce qui devra l'être dans le moment d'entretien que nous aurons par la suite. N'ayant pas moi-même formulé le titre, comme vous l'avez vu dans la publicité, « On y soit qui au mal pense », je me suis mis à réfléchir à cette formule. Et je me suis dit qu'après tout, c'était une excellente formule pour résumer les propositions majeures que je veux vous faire. Nous allons passer en revue un certain nombre de doctrines chrétiennes du mal, d'efforts qu'ont fait des penseurs de profession chrétienne face à l'expérience, qui est une expérience universelle, l'expérience du mal. Ce que je vais reprocher à la plupart, sinon à toutes d'entre elles, c'est d'avoir évité de penser vraiment le mal ou au mal. Il me semble que quand on analyse la plupart des doctrines qui ont offert des solutions au problème du mal, on y reconnaît autant d'exercices d'esquive, autant de manières d'éluder le mal du mal, autant d'escamotage du mal sous le nom même du mal. On a cherché à penser autre chose. Et dans un sens, on a posé « on y soit qui au mal pense ». Puis, poursuivant ma réflexion toujours sur cette formule, je me suis dit que ce n'était pas par hasard qu'à un niveau peut-être plus profond que celui de la première réflexion que je viens de vous livrer, il n'est peut-être pas possible de penser le mal dans toute sa malignité. Que le mal, nous ne réussissons pas à le penser, mais à déchirer sur son arête, sur son épine, toute pensée. Et qu'à partir de cette prise de conscience, nous allons peut-être devoir dénoncer toute prétention à penser le mal, à l'inclure dans un système, dans une cohérence rationnelle, comme un escamotage du véritable mal. Alors nous appelons mal, je ne vais pas donner une définition formelle, mais situer cette notion que nous connaissons tous, au moins approximativement, nous appelons mal, me semble-t-il, ce qui est, d'une certaine façon au moins, et qui ne devrait pas être. Ce que nous rencontrons et qui nous apparaît par le meilleur de nous-mêmes, l'injustifiable réalité. Le mal, c'est le corrélat de l'indignation. Le mal, c'est le corrélat de la honte. On peut distinguer, me semble-t-il, fondamentalement, deux grands genres du mal. Non pas le mal métaphysique et le mal moral, comme on a dit, je suis en tout cas d'avis que la frontière se trace difficilement, mais tout simplement le mal subi et le mal commis. C'est généralement le mal qu'on subit qui engendre l'indignation. C'est généralement le mal qu'on a commis qui provoque la honte. À ces deux affects, comme diraient les philosophes, fondamentaux, pour nous permettre de situer ce que nous appellerons le mal, je pense qu'on pourrait en ajouter d'autres, il y a la révolte, il y a le dégoût, il y a aussi, avec la honte, le remords, il y a la confession pénitente, il y a le pardon, comme un événement qui concerne aussi le mal. Ce sont ces éléments fondamentaux de notre expérience à tous qui nous permettent de situer, au moins grosso modo, ce que nous appelons le mal, l'injustifiable réalité qui a trouvé quelque place dans notre réalité. Ce à quoi nous devons dire non de toutes nos forces. Je me rappelle avoir été impressionné lors de l'assassinat du président Kennedy. Pour vous, je pense pour un certain nombre d'entre vous encore, c'était dans votre petite enfance que l'événement se logeait, mais je me rappelle avoir écouté la radio à ce moment-là. Et un commentateur, un des commentateurs les plus fins de l'époque, relevait le mot de Madame Kennedy, Jackie Kennedy, à ce moment-là, alors que le tireur a atteint son mari dans la voiture présidentielle. C'était le mot de tous les vivants face à la mort, face au mal. Non, non, non ! Voilà comment nous pouvons, en quelque sorte, repérer le mal. C'est de la pensée chrétienne et du mal que je veux parler plus spécialement ce soir. Pour ce qui concerne les autres pensées, je ne les évoquerai que par la bande. Il faut toujours restreindre son propos à vouloir couvrir un champ trop large, et le mien est déjà immensément large. On se perd. D'autre part, c'est à propos de pensées chrétiennes que je suis le moins incompétent. Et l'intérêt que, je pense, vous pouvez avoir dans une université qui porte le nom de Louvain, je pense que c'est un intérêt qui concerne tout spécialement les efforts des penseurs chrétiens tout au long de 19 siècles d'histoire de l'Église face à la question du mal. Non seulement toute religion, je crois, se propose en général comme un remède au mal, mais la religion chrétienne, avec la croix comme son centre et comme son symbole le plus connu, me semble nécessairement appeler la réflexion des croyants, de ses fidèles, sur le mal. Car la croix, c'est pas simplement un joli hiéroglyphe. La croix, c'est un horrible supplice. La croix, c'est une expression suprême de la méchanceté, de la cruauté des hommes. La croix sur laquelle a été cloué Jésus, que tout le monde quand même reconnaît comme un homme de bien, au minimum. La croix a été un horrible crime. Alors, la religion chrétienne, à coup sûr, doit réfléchir à la question du mal. Et je vais donc me concentrer sur la pensée chrétienne et le mal. Les penseurs chrétiens me semblent très souvent avoir élaboré de vastes constructions systématiques dans l'espoir de répondre au pourquoi qui monte de l'humanité face au mal. Pourquoi ? Pourquoi ? D'où vient ce mal dont nous souffrons, et dont nous souffrons même quand c'est nous qui le commettons ? La solution la plus fréquemment célébrée, celle qui, sans doute, bénéficie du prestige de l'ancienneté et de la continuité, c'est la solution qui prétend expliquer le mal par l'ordre universel et son harmonie. Le mal nous disent les penseurs qui ont choisi cette voie, le mal, finalement, est inéluctable. C'est un aspect de la réalité qui nous heurte, qui nous choque quand nous considérons la réalité par le petit bout de la lorgnette, selon que nous sommes concernés, nous, localement, mais qui finalement s'explique très bien quand on adopte la vision d'ensemble où toutes les données se rassemblent. Lorsque l'on considère l'arrangement total des choses, alors on se rend compte d'une part que le mal, ce serait simple folie, folie naïve que d'imaginer qu'il puisse ne pas être, et d'autre part que le mal joue finalement un rôle positif, comme celui, c'est une image très fréquemment employée, comme celui de la dissonance dans la symphonie. Le penseur qui s'est rendu sans doute le plus célèbre dans l'histoire du christianisme pour l'élaboration d'une telle théorie du mal, c'est le grand philosophe Leibniz, qui était l'homme sans doute le plus savant de son temps, un génie capable de maîtriser à la fois toutes les mathématiques de son époque, d'y inventer le calcul infinitésimal, qui était capable de mener toute une activité de diplomate, d'historien, un homme vraiment à l'ampleur de vue extraordinaire, qui n'a cessé tout au long de sa vie de réfléchir au problème de la théodicée, comme on dit techniquement. La théodicée, cela veut dire étymologiquement la justification de Dieu. Il s'agit du problème du mal. Comment justifier Dieu, souverain du monde, en présence du mal? Et sa solution a reçu grande publicité par le fait de Voltaire. Vous savez que Voltaire, dans Candide, ne cesse de répéter moqueusement la formule de Leibniz « Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles ». Leibniz croit pouvoir déterminer que le mal est inévitable. Les créatures étant diverses sont inégales, il y a du plus, il y a du moins, donc il y a du moins bien, il y a du mal. Et Dieu a tout arrangé selon les lois d'une harmonie universelle, lui qui choisit toujours avec la plus grande sagesse et le désir du bien, de telle sorte que nous pouvons être assurés que le mal qui se trouve dans le monde est un facteur de l'ordre le meilleur qu'on puisse concevoir. Nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. Voltaire répète cette formule à propos de toutes les catastrophes que connaissent ces héros. Il évoque l'horrible tremblement de terre de Lisbonne qui avait fait plus de 100 000 morts à l'époque, qui avait traumatisé toute l'Europe. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Face à la réalité brute du mal qui frappe les hommes par la simple répétition de la formule, il montre ce qu'a de pénible en tout cas, sinon de scandaleux, la thèse de Leibniz. De nos jours, en notre siècle, il me semble qu'on peut dire que le grand jésuite paléontologiste, mais qui a extrapolé bien au-delà de sa spécialité, qui était Teilhard de Chardin, se classe assez près de Leibniz, avec l'évolutionnisme en plus. Teilhard de Chardin était persuadé d'avoir découvert la solution enfin satisfaisante, sans aucun petit remords, du problème du mal. Le mal, a-t-il cru discerner, est inévitable. C'est une loi qui s'impose à Dieu lui-même. Il a eu l'audace, théologien dans le champ du christianisme, carrément de dire tout n'était pas faux dans la vieille idée païenne d'un destin qui régnait jusque sur les dieux. C'est une phrase de lui. Le mal est inéluctable, car Dieu trouve en face de lui le néant qui n'est pas rien, le néant qui est le pur multiple qu'il doit organiser, qu'il doit unifier. Or, l'œuvre d'unification requiert de la peine. Le néant présente une résistance à cette œuvre d'unification qui est à la fois la création, à la fois l'incarnation, à la fois la rédemption et l'évolution, qu'étudient les savants sous son angle biologique. Donc, c'est par simple sottise qu'on imagine que Dieu aurait pu éviter le mal. Le mal est un sous-produit nécessaire de la grande opération divino-cosmique qu'est l'évolution et la création. Mais non seulement nous avons là la solution au problème théorique du mal, mais nous découvrons que ce déchet se mue en facteur de surévolution. Le fait que la grande machine d'unification progressive du multiple produise le mal comme son déchet est une sorte de stimulant pour la machine elle-même. Elle empêche l'évolution de s'arrêter au stade qu'elle a atteint. Les douleurs, les peines, les fautes même sont autant d'aiguillons pour pousser le cosmos et pour accélérer la cosmogénèse, de telle sorte que le mal se découvre dans un rôle positif. Voilà ce que Teilhard de Chardin croyait avoir découvert et qu'il a dit à diverses reprises. Leibniz ou Teilhard de Chardin, cependant, sont des penseurs qu'on pourrait considérer comme relativement marginaux dans l'histoire de la pensée chrétienne. Je considère qu'il faut classer une pensée beaucoup plus modérée, beaucoup plus sobre et aussi sûrement travaillée par des milliers de penseurs de premier rang. Je pense qu'il faut la classer dans la même catégorie malgré tout. Il s'agit de la pensée traditionnelle, de fondation augustinienne que saint Augustin, au début du 5e siècle de notre ère, a commencé d'élaborer et qui a trouvé sa formule la plus durable, d'une très grande rigueur technique, avec saint Thomas d'Aquin au 13e siècle. Le thomisme, avec des représentants majeurs en notre siècle encore, et sur le mal ont particulièrement écrit Jacques Maritain et Charles Journet, qui est devenu plus tard cardinal. Donc le thomisme propose une explication du mal où il apparaît aussi inévitable et finalement comme un élément qui contribue positivement à la marche de l'histoire et à l'accomplissement des desseins d'un Dieu bon. Comment s'explique le mal pour le thomisme? Il y a des fondations, comme je l'ai dit, déjà avant saint Thomas d'Aquin, dès le temps de la patristique des pères de l'Église, par la morsure du néant. C'est l'expression même qu'emploient les thomistes, et en particulier Jacques Maritain. La créature, comme telle, est marquée par la morsure du néant. Elle a été tirée du néant, et elle en garde l'empreinte. Et cette empreinte du néant la rend faillible. Imaginez une créature infaillible qui ne glisse pas dans le mal, mais c'est comme envisager des cercles carrés. C'est une contradiction dans les termes. La créature, parce qu'elle vient du néant, est faillible. Et comme ce néant, ce n'est pas une pure absence, c'est une réalité capable de mordre, qui est quand même quelque chose, la faillibilité qui appartient à la constitution créaturelle comme telle, entraîne inévitablement la faute effective. Si quelque chose peut se détraquer, finalement ça se détraque. Si la créature est faillible, or la créature est faillible par définition, la créature va défaillir. Elle tombe effectivement dans la faute. Un grand thomiste du début de notre siècle, qui était membre de l'Institut de France, Antonin Dominique Sertillange, dit que c'est même comme le numéro de la loterie. Si vous jouez assez longtemps, il est fatal, il emploie le mot fatal, que le numéro finisse par sortir. La créature étant faillible, il était inévitable qu'elle défaille. Mais cette défaillance, qui est donc liée à l'imperfection de la créature, qui n'est pas tout être, mais être mordu par le néant, se révèle, quand on considère les voies de Dieu, non pas localement et particulièrement, mais dans leur ensemble, se révèle un facteur positif. Mais dans la même phrase, et très volontairement, le mal naturel et le mal moral, saint Thomas d'Aquin dit, je vais vous citer exactement la formule, parce que je ne voudrais pas modifier les termes, le feu ne serait pas engendré si l'air ne se corrompait. Le lion ne pourrait vivre si l'âne ne mourait. Et on ne louerait ni la justice vengeresse, ni la patience de l'homme persécuté, si disparaissait l'iniquité du persécuteur. En d'autres termes, trois formes de mal, et trois formes de bien, dont ce mal constitue comme l'envers, la condition, la rançon. L'air se corrompt, c'est un mal, mais ça vous donne le feu, n'est-ce pas ? Vous faites un feu, si vous n'aérez pas, vous aurez du gaz carbonique et finalement vous étoufferez. L'air se corrompt, mais c'est la rançon, ce mal est la rançon du bien que le feu brûle. Le lion ne vivrait pas si l'âne ne mourait. À supposer qu'il n'ait pas de gazelle à se mettre sous la dent, qu'il n'y ait que des ânes alentour. Bon, pas besoin d'explication, me semble-t-il, pour ce raisonnement si simple. Le mal de la mort de l'âne est requis pour le bien de la vie du lion. Et le mal de l'iniquité du persécuteur. Thomas d'Aquin prend ici l'exemple d'un mal dont je pense peu de chrétiens vont nier qu'il s'agit d'un mal, en effet, la persécution. Eh bien, l'iniquité du persécuteur, elle est comme la condition pour que s'exerce ce bien qu'est la justice vengeresse de Dieu, et ce bien aussi qu'est la vertu de patience chez le persécuté, qui s'acquiert ainsi mérite et glorifie son Seigneur. Il faut reconnaître que les thomistes de notre siècle sont un peu plus prudents. Pas tous, non pas Sertillange, comme je l'ai dit, mais Jacques Maritain et Charles Journet, qui suit d'ailleurs assez étroitement Jacques Maritain, essaient de dire il y a une différence radicale et fondamentale entre le mal de nature, l'air qui se corrompt et l'âme qui se fait manger, et puis le mal moral. Quand on entre dans le domaine de la vie personnelle, on ne peut plus du tout penser de la même façon. Seulement, je suis obligé de constater qu'il retombe en fait dans une pensée de la même sorte. Après avoir souligné la différence, ils disent quand même que ce mal de la faute morale, et pensez là à toutes les cruautés, à toutes les oppressions, aux tortures, aux viols, à tous les crimes qui se commettent, ce mal-là est aussi l'effet du néant dont la morsure est constitutionnellement sur la créature humaine. C'est un néant qui en lui-même n'est pas mauvais, mais qui est la morsure du néant. C'est un néant en lui, en quelque sorte, qui produit ce mal, et ainsi nous avons l'explication. Et il était inévitable que les choses se passent ainsi. Et d'autre part, ils reviennent à l'idée qu'un tel mal est la rançon. Et la rançon, c'est un terme qu'emploie Jacques Maritain. La rançon du bien, la rançon du salut. Et bien sûr, il y a une formule dans la liturgie romaine qui semble tout à fait exprimer cette pensée. C'est le fameux « Felix culpa », « bienheureuse faute ». La faute en question, c'est la faute du premier homme, c'est la faute donc de l'humanité en son origine. Et à un moment, le cri jaillit en quelque sorte dans le cantique « bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur ». Et je comprends, au moins à titre de licence poétique, que dans l'émerveillement devant tout ce que nous apporte Jésus-Christ, le Rédempteur, quelqu'un ait pu aller jusque-là et dire « Bienheureuse faute, Felix culpa ». Mais ça devient système, cela devient explication du problème du mal, solution rationnelle à sa difficulté, dissolution rationnelle de son scandale dans la thèse thomiste. Or, je suis obligé de considérer qu'il s'agit d'une solution trompe-l'œil. Je dirais que l'opposition avec le témoignage de l'Écriture sainte, le seul document qui fasse foi en matière de christianisme, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle le canon, c'est-à-dire la règle, c'est la norme de référence. Le témoignage de l'Écriture sainte me semble nous obliger de dire non. Lorsque le mal est considéré comme une imperfection qui entre dans l'harmonie du tout, on s'éloigne de manière sérieuse de toute la sensibilité biblique. Ayez le mal en horreur, dit l'apôtre Paul. C'est une formule qu'il emploie au chapitre 12 de son épître aux Romains et au verset 9. Le mal fait l'objet d'une dénonciation inlassable de la deuxième page à la dernière de toute la Bible. Le mal, c'est ce qui fait s'écrier un pécheur qui se sent tout à coup devant la sainteté de Jésus-Christ. Éloigne de toi de moi, car je suis un homme pécheur. Donc je ne peux pas rester tout près de toi. Voilà l'horreur du mal qu'atteste l'Écriture sainte. Et si l'Écriture nous enseigne que Dieu, dans son infinie sagesse, est capable de retourner le mal contre lui en quelque sorte, jamais, jamais, l'Écriture ne va jusqu'au Felix culpa, jusqu'à dire bienheureuse une faute. Il y a un sens de l'horreur du mal qui l'empêche. Finalement, par cette solution, on doit dire atténuer, bien sûr, mais c'est le chemin. On excuse le mal. On l'excuse. C'est inévitable. Comment se sentir aussi honteux et aussi indigné si on dit, mais voilà, c'est dans le bâti même de la créature, et puis il est inévitable que cela passe de la puissance à l'acte, de la potentialité à la réalité. Comment se sentir aussi prompt à l'indignation qu'on le devrait. Le mal entre déjà dans l'harmonie. Et si on en fait la rançon du salut même, oh, je sais bien que ce n'est quand même pas une accusation de Dieu. On ne fait pas Dieu carrément complice de ce mal. Mais pourtant, c'est Dieu qui est en charge. C'est lui en qui toutes les créatures ont la vie, le mouvement, l'être. Tout est de lui, par lui, pour lui, dit encore une fois la Bible. Alors on est bien obligé de dire, si c'est la condition nécessaire, la rançon, Dieu n'est peut-être pas parfaitement pur de toute complicité à l'égard de ce mal. Alors la deuxième solution, c'est une solution qui est également très répandue, surtout parmi les modernes. C'est une solution qu'on pourrait situer à certains égards aux antipodes, mais vous allez voir qu'il y a convergence. C'est la solution par la liberté. Alors que la première théorie cherche à rassurer en disant, au fond, le mal n'est pas si mauvais que ça. La deuxième dramatise. Alors que la première, au fond, attribue à Dieu, qui est le grand garant de l'ordre métaphysique, de l'être et des êtres. Finalement, l'origine de ce mal, la deuxième solution, apparemment, exclut tout à fait cela. Le mal vient de la liberté. C'est la liberté qui explique le mal. La liberté, c'est de pouvoir dire oui ou non, c'est de pouvoir choisir face au commandement divin le rapport positif de l'obéissance ou la rébellion, qui est le mal. Et c'est cela qui explique le mal. Dieu a créé des créatures libres. Les humains ne sont pas des robots, ne sont pas des marionnettes. Il les a créés libres, c'est-à-dire capables de choisir aussi bien la voie de droite que celle de gauche, aussi bien le mal que son contraire. Dieu a pris le risque. Dieu a pris le risque. Ça, c'est la formule que l'on rencontre très très souvent sous la plume de ceux qui adoptent cette idée. Et malheureusement, l'humanité a choisi le mal. Mais c'était un risque à prendre, car c'était la seule façon pour Dieu d'avoir comme partenaire, non pas des marionnettes, mais vraiment des gens qui puissent l'aimer en retour, et c'est pourquoi Dieu a pris le risque. Voilà l'explication que plusieurs offrent du mal. Alors vous avez là encore des versions qui s'étagent, plusieurs degrés. Je pense qu'à l'extrême, on pourrait citer le penseur issu de l'orthodoxie russe, Nicolas Berdiaev, qui lui va carrément jusqu'à dire que cette liberté est incréée, qu'elle provient du néant, un néant pour lui aussi réel, mais un néant qui n'est pas contrôlable par Dieu. Il y a Dieu, puis il y a face à lui ce néant duquel jaillit une liberté incréée, ambivalente, et qui a choisi le mal. Il y en a d'autres, plus sobres, qui affirment que Dieu sait comme lier les mains, que Dieu, pour avoir des êtres libres face à lui, a choisi l'attitude du mendiant. Il fait tout ce qu'il peut, mais sans doute parce qu'il l'a voulu lui-même, il ne peut pas empêcher que le mal se produise. Ayant créé de la liberté, Dieu se retrouve en quelque sorte impuissant face à la décision mauvaise qu'a prise sa créature. Et puis vous avez des versions plus atténuées encore de cette auto-limitation divine, mais qui gardent l'idée clé que le mal provient de cette liberté indéterminée que Dieu a suscitée et dont il a pris en quelque sorte le risque. Je pense qu'on doit reconnaître un discernement authentique, comme d'ailleurs aussi dans la première thèse, je pense qu'il y a des éléments de discernement authentique importants pour nous, nous pourrons y revenir dans nos entretiens. Je pense qu'on est en mesure d'affirmer, lorsque l'on prend l'ensemble du témoignage de la Bible, qu'en effet, le mal est le fait de la liberté, qu'il est issu du choix d'une créature libre que Dieu avait placée devant lui dans un rapport de vis-à-vis. S'il n'y avait pas eu de créature libre, oui, je pense que dans les perspectives bibliques, il n'aurait pas été envisageable qu'il y ait jamais du mal. Et le mal du malheur, le mal des catastrophes qui s'abattent, même naturelles, comme nous disons, sur l'humanité, je crois que dans la perspective biblique, il est entièrement déclenché par ce mal du choix mauvais de la créature humaine face à son Créateur. Cela dit, je crois qu'il est impossible de considérer que nous ayons là la vraie solution, enfin rationnelle, au problème du mal. D'abord, je fais remarquer que on n'est pas si loin de la première version qu'on l'imaginait d'abord. Parce qu'enfin, cette espèce de nécessité pour la liberté, de contenir le mal à titre de possible réel en elle, avant même d'avoir choisi le mal, qu'elle soit en quelque sorte une liberté d'ambivalence, qu'elle soit face au bien et au mal, avec les deux possibilités en elle. Et cela implique que le Dieu créateur de la liberté a lui-même suscité la possibilité réelle du mal, qui n'est pas rien, qui n'est pas une pure abstraction, qui est déjà un pouvoir spécifié dans la liberté. Il me semble que c'est s'écarter déjà de l'affirmation biblique si nette. Le Seigneur, regardant son œuvre entière, vit non seulement que tout séparément était bon, mais que tout était très bon. Le mal surgit après. Il y a une discontinuité que cette idée du mal comme un des possibles comme interne à la liberté, me semble essayer de surmonter une continuité subreptice, en quelque sorte, est posée par cette idée du mal comme un possible de la liberté. Je plaiderais que dans les perspectives de la Bible, la liberté de l'homme dans sa création première n'est pas la liberté de choisir le bien ou le mal, C'est la liberté de choisir le bien, de demeurer dans le bien. Et il n'a aucune raison, rien qui le pousse, qui le sollicite du côté du mal, dans la bonne création de Dieu. Il n'a aucune raison de ne pas s'en tenir à ce rapport d'harmonie, de dépendance joyeuse qu'il réaffirme à chaque instant à l'égard de son Créateur. La liberté, dans la perspective biblique en général, n'est pas une ambivalence, n'est pas un pouvoir d'indétermination entre la gauche et la droite. La vraie liberté, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous en donne le modèle parfait. Jésus-Christ ne pouvait pas pécher, il ne pouvait pas choisir le mal, il aimait trop le Père Céleste. Il était trop dans une parfaite communion avec lui. Imaginez qu'il ait pu pécher de manière réelle, comme un possible se développant de lui. Mais c'est déjà commencé de salir ce qu'il est et qui s'impose à celui qui lit avec un cœur ouvert le texte des évangiles. Non, Jésus-Christ dit « Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. » C'est vraiment mon pain de chaque jour et mon délice, mon pain et mon chocolat, si j'ose. Cette façon de parler, c'était sa joie. Et il était libre, libre dans ce oui permanent au Père, qui n'incluait aucun germe de non. Et à l'inverse, chez ceux qui ont choisi le non, la liberté n'est plus que caricature d'elle-même, c'est Jésus lui-même qui le dit. Vous prétendez être libre. Ses interlocuteurs, ses concitoyens juifs, se dressaient devant lui en disant « Nous n'avons été esclaves de personne. Quiconque se livre au péché, dit Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, est esclave du péché. Vous prétendez être libre, mais en fait, votre liberté n'est que servitude. » Et l'apôtre Paul met cela dramatiquement en scène au chapitre 7 de son épître aux Romains, en évoquant l'expérience que beaucoup connaissent quand même. Je comprends pas. Je voudrais faire le bien, et je ne réussis à faire que le mal. Alors même que j'aurais un certain désir de faire le bien, il y a comme une servitude qui fait que je commets en réalité le mal. Cette liberté entre deux n'existe pas. Où il y a la réalité du oui, dans l'harmonie bienheureuse de l'amour du Père Céleste, ou bien c'est la servitude des passions, du mensonge. Alors tout cela me semble comme escamoté, comme gommé par la solution que j'évoque maintenant. Et puis alors il y a quelque chose d'énorme. Cette idée de l'autolimitation de Dieu qui se lie les mains. Mais où la trouvez-vous dans l'Écriture, dans la Bible? Je vous défie de trouver un seul passage qui suggère que Dieu ait cessé d'exercer la souveraineté qui est la sienne, qui est évoquée par le nom même qu'il porte de préférence dans toute la Bible, le Seigneur. Il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, dit encore l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 1er. Nulle part nous n'avons cette suggestion. Et d'ailleurs je crois que c'est une pensée inconsistante, cette idée d'une auto-limitation. Que veut-elle dire? Dieu cesse-t-il d'être Dieu? En fait, pour proposer une telle pensée, il faut avoir déjà admis une idée assez idolâtrique de la liberté humaine, qui se dresserait par elle-même, qui n'aurait pas besoin pour être du soutien divin même, et il faut avoir oublié quelle est la majesté de ce Dieu en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, roi des rois, seigneur des seigneurs. Alors il y a une troisième solution, qui est plus difficile à exposer, sur laquelle je vais passer extrêmement vite. C'est la solution par la dialectique. À certains égards, c'est une sorte de reforge de la première solution. Mais le mal est reconnu, semble-t-il, de façon beaucoup plus sensible, beaucoup plus marquée. La réalité du mal dans l'histoire, le tragique qu'il implique dans les solutions dialectiques, tout cela semble bien en place. Seulement ce mal est considéré comme un facteur de bien. La solution par la dialectique implique que le négatif dans l'histoire est fécond, qu'il est en fait le moyen de la réconciliation, que tout autrement serait fade, sans goût, que c'est le mal dans l'histoire qui la nettoie, la purge et la fait avancer jusqu'à la réconciliation. Alors vous reconnaissez, ceux qui ont quelques idées de philosophie, vous reconnaissez bien sûr une évocation de la pensée de Hegel, mais qui a beaucoup de rejetons, comme on le sait aujourd'hui. Cette pensée pourrait sembler s'accrocher très bien au témoignage biblique, puisque c'est justement un mal énorme que j'ai évoqué tout à l'heure, le mal du crime commis contre l'innocent Jésus à la croix, qui est ensuite l'objet de la prédication dans toute la deuxième partie de la Bible et annoncé déjà dans la première. Cet événement tragique est le moyen de la réconciliation universelle, le moyen du salut offert à tous ceux qui croient. Alors, on pourrait penser que la réconciliation dialectique correspond exactement à ce que le témoignage biblique nous apporte. Mais comme l'a très bien dit un théologien de notre siècle, Karl Barth, ce qui peut sembler la plus grande tentative du point de vue chrétien, puisque le symbole de la croix est repris, est aussi la plus grande tentation. Parce que le sens du christianisme y est radicalement perverti. Jamais dans le témoignage biblique, c'est le mal lui-même qui fait avancer. Non, c'est le Seigneur dans sa bonté, qui triomphe du mal, qui est capable de le retourner contre lui. Mais ce n'est pas le mal qui est un facteur de progrès. Le mal continue d'être l'horreur à combattre. Alors si ces solutions ne peuvent pas convenir, en ai-je une autre à tirer de ma manche comme un prestidigitateur? Je suis persuadé que l'Écriture, la Bible, nous apprend avec autant de force, autant de certitude, que le mal est une réalité exécrable, abominable, réelle. Que le Dieu dont la Bible parle est un Dieu bon, sans aucun mélange de mal, dont l'œuvre qui sort de ses mains est entièrement bonne, et qu'il est souverain, qu'il détermine toute chose et le cours de toute chose, y compris les actes mauvais des créatures révoltées contre lui. Mais je pense que nous avons là un assemblage qui demeure pour la raison humaine une épine, une écharde. J'ai employé l'image de l'épine tout au début. Je me préparais à maintenant y revenir. Vous savez que l'apôtre Paul parle de ce qui était sans doute pour lui une maladie, en parlant de son écharde dans la chair, dont le Seigneur n'a pas voulu le délivrer. Je dirais que le problème du mal, il n'a pas de solution rationnelle, selon l'Écriture. Il est, avec les trois vérités à maintenir ensemble que je viens d'évoquer, comme une écharde dans la chair de la raison humaine, même croyante. Ce n'est pas seulement mon incapacité à trouver une solution qui me conduit à le dire. C'est, me semble-t-il, le témoignage positif de certains passages bibliques à cet égard. Tout le livre de Job, déjà, va dans ce sens. Job, l'innocent, souffre, je ne sais pas pourquoi. Nous le savons par le prologue, nous savons que s'il souffre, c'est parce que l'adversaire, le diable, a mis le Seigneur au défi, en insinuant que Job servait par intérêt le Seigneur. Et le Seigneur a permis qu'il soit alors assiégé de souffrance pour que la qualité de sa foi et de son amour puisse se révéler. Mais Job ne le sait pas, et Job ne le sait pas même au bout du livre. Lorsqu'il se tourne et retourne sur son lit de tourment, et qu'il crie à Dieu, un Dieu qui est trop juste pour voir le mal, il ne reçoit pour réponse finale que la révélation de l'incompréhensibilité de Dieu. Dieu se révèle finalement à lui, et il apaise Job. Job déclare maintenant, mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler de toi auparavant. Maintenant, mon œil t'a vu. Et il est apaisé dans sa plainte, simplement parce que Dieu, sans lui expliquer quoi que ce soit, s'est révélé à lui du sein de la tempête, comme le Dieu infiniment au-delà de tout ce que l'homme peut envisager, imaginer, penser. Et puis il y a un passage très très fort dans le 9e chapitre de l'Épître aux Romains, de l'apôtre Paul encore, où l'apôtre Paul pose carrément la question, il prévoit l'objection de ses interlocuteurs lorsqu'il affirme que Dieu est souverain en toutes choses. Mais alors pourquoi est-ce que Dieu blâme encore le pécheur si rien ne résiste à sa volonté? Voilà l'objection. Comment Dieu peut-il considérer les hommes comme coupables et les juger si vraiment Dieu est souverain en toutes choses? Comment l'apôtre répond-il? Il ne répond pas en disant « Oh non, non, mais Dieu se limite, Dieu laisse là une marge, un espace libre pour la liberté humaine. » Ou bien vous n'avez pas compris, le mal, en fait, c'est pas vraiment un mal, il joue un rôle positif au bout du compte. L'apôtre Paul répond simplement « Qui es-tu, toi, vase de terre, pour contester avec le souverain potier ? Tu ne peux pas comprendre. » Mais alors cette absence de toute solution au problème du mal dans le christianisme biblique, est-ce que c'est une faiblesse? Je pense que bien des gens le considèrent ainsi, en effet, considèrent que cette absence est comme un échec. Il me semble pourtant qu'à la réflexion, cette faiblesse apparente se retourne en force spirituelle. Et je vous explique comment je crois voir les choses à ce propos. D'abord, ce serait une faiblesse si quelqu'un avait une solution. Quelqu'un d'autre. Alors là, on pourrait dire, oui, c'est supérieur. Mais toutes les solutions offertes, alors j'ai considéré celles du champ de l'histoire du christianisme, mais il y avait des penseurs d'une assez grande stature pour que vous fassiez confiance qu'il y avait là vraiment des hommes capables de voir une bonne solution s'il y en avait une. Toutes les solutions prétendument rationnelles sont des escamotages. Le mal du mal est subrepticement éliminé, en théorie bien sûr, parce qu'en pratique, les hommes continuent de souffrir et de se charger de culpabilité. Alors une fois qu'on s'est rendu compte que partout ailleurs, les hommes, et même dans le champ du christianisme, ont cherché à intégrer le mal dans un système, et n'y sont parvenus qu'au prix de coups de pouce, d'entourloupettes, en vidant le mal de son venin, alors le fait que la Bible, elle, seule, ne le fasse pas, mais ça se retourne en témoignage, je dirais extraordinaire, de sa pureté, de son origine unique. C'est une chasteté spirituelle qui est extraordinaire, qui est miraculeuse. Et puis ayant dit cela, alors je remarque encore deux choses. La première, c'est que si on ne peut pas comprendre le pourquoi du mal, pourquoi le Dieu souverainement bon le permet, on peut peut-être comprendre pourquoi on ne peut pas comprendre. Précisément, si vous compreniez le mal, mais vous l'intégreriez dans l'harmonie, donc vous le justifieriez, donc déjà vous l'excuseriez, et vous désarmeriez l'indignation contre le mal. Le mal n'est pas à comprendre, mais à combattre. Et nous combattrons le mal quand nous verrons que c'est précisément le désordre qui ne rentre pas dans l'ordre, ce qui est injustifiable dans la réalité. Puis la deuxième remarque, plus importante encore me semble-t-il que celle-là, c'est que s'il n'y a pas de solution théorique au problème du mal, dans la Bible, il y a du coup une solution pratique. Si nous ne savons pas pourquoi l'origine du mal, nous pouvons avoir l'assurance de la fin du mal. Après tout, avec les autres solutions, il n'y a pas lieu d'espérer. On vous explique que le mal, finalement, c'est pas si mal. On vous explique que c'est un possible inhérent à la liberté, et que sans cette possibilité du mal, qui s'actualise finalement toujours, il n'y aurait pas de liberté, il n'y aurait que des marionnettes. Mais alors, vous ne pouvez pas souhaiter la fin du mal, vous ne pouvez pas souhaiter une élimination radicale et totale du mal. Ça ne peut pas être espéré. On vous dit que Dieu s'est lié les mains. Alors il s'est lié les mains. Comment triompherait-il du mal? C'est uniquement si vous retenez les trois vérités que l'Écriture affirme, si difficile qu'il soit pour notre raison de les tenir ensemble, c'est uniquement si vous les tenez toutes les trois, que Dieu est bon, que Dieu est souverain, et que le mal n'est pourtant pas une illusion, donc que Dieu va triompher du mal, que vous pouvez avoir une véritable assurance. Et non seulement il y a cette assurance pour la fin, pour ce jour de Jésus, quand il viendra manifester tout le fruit de son œuvre, qu'appelait le chant de nos frères tout à l'heure, ce vers quoi il se tendait. Non seulement il y a cette promesse faite à notre espérance, mais la victoire a déjà été remportée. La croix de Jésus-Christ, c'est le lieu central où précisément nous voyons ces trois vérités proclamées au plus haut degré. La réalité du mal, tout ce qu'il a d'odieux, d'absolument inexcusable, mais est là, bien sûr. Jésus souffrant ce qu'il souffre. En même temps, la bonté de Dieu, qu'il n'est nullement complice de ce mal. Mais n'est-ce pas évident? C'est lui en la personne de son Fils, qui est un avec lui. C'est lui qui subit l'assaut de ce mal. Et pourtant, c'est son plan qui s'accomplit. Sa souveraineté n'est pas mise en échec. Au contraire, c'est ce que sa main et son dessein avaient arrêté d'avance, comme dit la prière des apôtres au chapitre 4 du livre des Actes. C'est la victoire même du Dieu souverain sur le mal qui s'opère. Et c'est ce que la résurrection de Jésus-Christ a démontré, que la victoire avait été obtenue, que Dieu a réussi avec une sagesse infinie à retourner le mal contre lui-même, non pas à faire sortir le bien du mal, mais retourner le mal contre lui-même à la croix de Jésus-Christ, de telle sorte que nous avons maintenant une pleine assurance de l'élimination finale du mal, et déjà l'avant-goût, déjà l'acompte de la victoire sur le mal, de la libération, dont on chantait aussi nos frères tout à l'heure. Voyez comment se situe le message de la Bible, du christianisme biblique, face à ce mal. Et on atteint donc finalement l'expérience. Pas de solution théorique, bien sûr, mais une solution pratique. Pour demain, quand Jésus-Christ manifestera son règne, mais déjà pour aujourd'hui, pour ceux qui laissent la puissance de ce règne toucher leur vie en s'ouvrant à lui. Voilà, je vous remercie d'avoir patienté. J'ai peut-être parlé quelques minutes de plus que je ne voulais, mais nous pourrons continuer de toute façon à considérer les éléments de ce grand sujet dans l'entretien de tout à l'heure.